Apprendre et partager avec les enfants du web.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous, salut, bienvenue aux enfants du web dans cette nouvelle émission. Après, un petit break imposé par Solvik, nous voilà de retour. Ah, excuse-moi, je balance. Nous voilà donc de retour pour les enfants du web dans une émission, dans une nouvelle émission spéciale, puisqu'on va avoir le plaisir et l'avantage d'accueillir sur l'antenne Jérémy Zimmermann, l'un des cofondateurs de la Quadrature du Net, un site dont on vous parle souvent, que vous connaissez, qui va nous expliquer, nous redire un petit peu la Hadopi, mais aussi un certain nombre de choses sur, en gros, où est-ce qu'on va sur le web. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous pend au nez? Qu'est-ce qui va nous arriver? Tout ça. Donc, Jérémy a eu la gentillesse de bien vouloir répondre à nos questions. Donc, vous pourrez aussi l'interpeller en appelant Oxy Radio au 01 77 695 239. 01 77 695 239. Vous n'hésitez pas à vous appeler. Et puis, on vous passera à l'antenne pour que vous puissiez poser une question, donc j'espère que ça va mieux marcher que la dernière fois.
On est en direct avec Jérémy. Jérémy, tu nous entends?
Salut Jérémy, t'es avec nous?
Oui, je vous entends très bien.
C'est super, je te souhaite la bienvenue aux enfants du web.
Merci.
Ça nous fait super plaisir que t'aies répondu présent à l'invitation en pleine période Adopi. Tu vois, celui qui est
intense en ce moment.
Tu m'étonnes, celui qui est tout excité derrière son ordinateur, parce que tu vois, ça marche. Et un informaticien qui est derrière un truc qui marche, il est tout excité, tu vois, il rebondit partout, c'est extraordinaire. Donc, je vais te laisser la parole dans quelques secondes, Jérémy. Tu es l'un des cofondateurs donc de la Quadrature du Net, site qui a été fondé avec Christophe Espern et Philippe Aigrin, si je ne m'abuse, qui a pour but donc de nous informer sur tout ce qui se passe dans le web, j'allais dire français, mais un petit peu au-delà, et qui nous alerte sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc je vais te passer la parole, je vais te passer les plats. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, Jérémy, c'est c'est quoi l'Adopi alors finalement?
Alors, écoute, si tu me le permets, je vais commencer par détailler un petit peu ce qu'est la Quadrature du Net.
D'accord.
Car effectivement, on est une initiative citoyenne qui informe sur des projets de loi qui mettent en péril les libertés individuelles et l'équilibre socio-économique dans l'environnement numérique. Voilà, donc ça c'est la définition complète. Mais avant tout, moi je vois ça comme une sorte de caisse à outils. Mmh. Qui sert pour les citoyens à comprendre le processus législatif et à pouvoir s'en saisir pour agir et tâcher d'influer sur le cours du processus législatif, donc sur ces projets de loi qui concernent Internet.
D'accord.
Donc maintenant, j'ai répondu à la question sur Hadopi.
Ça a été fondé quand ?
Alors, ça a été fondé de mémoire en mars 2008, mais le temps passe très très vite, surtout en ce moment.
Ça se trouve, c'était en mars 1957, mais tu ne sais plus.
Alors, concrètement, justement, ça me permet de faire la transition idéale. On a fondé la Quadrature du Net lorsque la première version du projet de loi, qui s'appelait à l'époque loi Oliven, et qu'on appelle désormais loi Hadopi, a fuité sur Internet, et qu'on est tombé donc face à face avec une espèce de version bêta de ce machin. Mmh. Alors, le machin Hadopi en question est en réalité un moyen pour les industries du divertissement de faire la police elles-mêmes sur Internet.
Oula.
Vous savez que depuis 10 ans, depuis 12 ans même maintenant que Napster existe, les industries du divertissement dont le modèle économique est toujours basé sur la vente de copies, mmh, n'ont toujours pas compris que Internet est une gigantesque machine à copier. Et que la valeur n'est plus aujourd'hui dans la capacité à faire une copie, parce que tout le monde peut faire une copie, mais bien dans autre chose, en réalité. Et donc, ces nouveaux moines copistes, que sont les industries du divertissement, ont tenté en quelque sorte de lutter contre le progrès inévitable, de lutter contre les nouveaux usages qui sont le partage d'œuvres entre particuliers sans but commercial sur Internet, Et donc, pendant des années, ils ont fait ces procès que, dont on a entendu parler à des pauvres petites mamies, des pauvres ados, des pauvres gens qui avaient eu le malheur de partager 3 albums de Britney Spears et 2 Pierre Bachelet.
Ah, oui.
Ils se sont aperçus que les procès n'étaient pas dissuasifs, que ça leur rapportait pas un sou, que ça leur coûtait de l'argent. Et donc, ils ont pensé à une nouvelle manière d'industrialiser la dissuasion de ces usages, tentant de repousser le progrès.
Ils le repoussaient, même carrément le nier, quoi. De ce que je comprends, c'est qu'ils ne font pas que le repousser, ils veulent carrément ne pas le voir exister.
Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup cette analogie que j'emprunte à Richard Stallman et à Benjamin Bayard, qui est que Internet et les technologies.
Stallman, nos auditeurs connaissent. Benjamin, ouais. Bayard, peut-être.
Benjamin Bayard, c'est le président de FDN, qui a une conférence qui s'appelle le Minitel 2.0. Et qui raconte comment tout le monde a intérêt à transformer Internet en un Minitel. Je vous invite à la regarder. Et donc, les deux partagent cette analogie qui est de dire Internet et les technologies numériques sont la plus grande avancée de l'humanité depuis l'invention de l'imprimerie de Gutenberg.
Je suis assez
et,
d'accord.
Et Richard Stallman va plus loin dans son analyse en reliant ces avancées aux paramètres technologiques relatifs à la copie elle-même. À savoir, je m'explique. Avant l'imprimerie, on avait les moines copistes. Les moines copistes mettaient un temps proportionnel à la réalisation d'une copie pour réaliser un nombre multiple. En clair, s'il fallait faire 100 copies, ça prenait 100 fois le temps de réaliser une copie.
Voilà, bon, parce qu'ils les faisaient chacun à leur tour, les uns à leur tour, et ils recopiaient, voilà.
Vas-y. Ensuite, donc il faut un temps fou pour réaliser la première copie. Il faut mettre tous les petits caractères les uns à la suite des autres dans des réglettes. Ça coûte assez cher, ça prend du temps. Mais une fois que la première copie est réalisée, en réaliser 100, en réaliser 1000 ou en réaliser 100 000, ça coûte un peu plus cher, mais beaucoup moins cher.
Ouais.
Donc on a une économie d'échelle. Dès qu'on dépasse un certain nombre de copies, ça coûte moins cher que les moines copistes.
Tout à fait.
Avec Internet et les technologies numériques, on va encore un cran plus loin, puisque le coût de réalisation de la première copie est nul, quasiment nul, dès la première copie, et réaliser une copie ou 1 million de copies a le même coût qui est proche de zéro.
Et j'ajouterais, si tu me le permets, je pense que tu vas y venir, que le coût de stockage est un peu la même chose.
Voilà, ça alors il ne faut pas rien dire que c'est nul, parce
non.
que la gratuité n'existe pas.
Mais c'est quasi.
Qu'on paye pour un accès Internet, qu'on paye pour un ordinateur, qu'on va payer pour des supports vierges.
L'électricité,
qu'on paye
etc.
pour le temps que l'on passe, voilà, pour l'électricité, pour le temps que l'on passe à réaliser la copie. Mais l'économie d'échelle va un cran plus loin, un ordre de magnitude au-delà de ce qu'était l'imprimerie de Gutenberg. Or, on a une industrie qui est toujours basée sur les mêmes modèles économiques que ceux de l'imprimerie de Gutenberg, à savoir des industriels qui contrôlent les mécanismes de production, qui contrôlent les modes de distribution, qui sont plus ou moins les seuls à avoir, enfin qui étaient plus ou moins les seuls à avoir la capacité de réaliser des copies en grand nombre, donc des contrats avec des usines de CD, etc. Maintenant que chacun est potentiellement sa propre Fnac,
oui.
ou son propre Virgin Megastore, si j'ose dire,
oui.
Leur valeur ajoutée n'est plus dans la copie.
Non.
Donc ça, c'est vraiment très important.
Elle n'est plus dans l'industrialisation.
Pardon ?
Elle n'est plus dans l'industrialisation.
Surtout, ce qui était l'apanage de quelques industriels se retrouve aujourd'hui potentiellement entre les mains de n'importe qui. Chacun est son canal de distribution, chacun est son industrie de la copie, si j'ose dire, et la valeur est dans autre chose. On n'a plus une économie qui est basée sur la rareté où seules les quelques personnes qui sont en capacité de faire des copies le font. Donc, il est nécessaire d'accéder jusqu'à eux et de se faire sélectionner pour être copié. Ensuite, il y a un nombre limité de copies, donc il faut fixer un prix, etc. L'économie de la distribution des biens culturels était jusqu'à présent basée sur cette rareté. Aujourd'hui, à l'inverse, le paramètre qui était limité, qui était celui de la rareté, est devenu infini. On est dans une économie de l'abondance. Tout le monde copie tout. Tout ce qui est issu du cerveau humain peut être copié à l'infini, Et la difficulté est autre. La difficulté est d'arriver à exister au milieu de cette abondance, d'arriver en quelque sorte à sortir du lot.
Exactement.
Et c'est là qu'est la vraie valeur, avec l'attention et avec le fameux temps de cerveau disponible que nous vantait le patron de TF1.
Le lait, notre ami.
Voilà. Mm. Donc, on est en présence d'une révolution industrielle, d'une révolution intellectuelle, et d'acteurs qui sont pas si importants que ça en importance économique, mais qui sont très puissants, car ils sont à tous les coins du pouvoir, ils ont des lobbyistes très influents, et dans une société du spectacle, ils permettent aux hommes politiques de se faire élire. Quand on aligne un Johnny Hallyday, un Doc Gynéco, un Michel Sardou, etc., sur la scène d'un meeting...
Du Mireille Mathieu aussi, tu veux dire ?
Mécaniquement, voilà, Mireille Mathieu, ben, eh bien, on fera plus de voix que si on se retrouve avec trois paumés que personne ne connaît. Mm. Donc, ils ont un poids politique non négligeable, et ils s'en servent pour créer des lois qui, à leur avis, vont permettre de faire continuer leur modèle économique.
D'accord, donc en fait ce que tu es en train de nous dire, ce qui est tout à fait intéressant, ce qu'on n'entend pas assez souvent dans les majors et dans les médias importants, c'est que les lois qu'ils essaient de faire passer sont pas des lois qui vont protéger le patrimoine culturel ou l'aider à être accessible pour tous, mais simplement protéger une caste, un certain nombre de personnes à continuer à faire valoir un modèle économique qu'ils ont inventé il y a 40 ans, qu'ils veulent surtout pas voir disparaître. C'est bien ça qu'on peut entendre.
Voilà, exactement. Et c'est d'autant plus fâcheux et d'autant plus énervant que, comme tu le dis, ils vont se draper dans une espèce de défense des auteurs, ouais, de la création, des artistes, alors que ce sont les mêmes qui, depuis des années, les tiennent pieds et poings liés par des contrats de production absolument orduriers dans lesquels les artistes et les auteurs, à eux tout seuls, touchent au maximum 10% du prix de vente de vente des CD, et dans lesquels ils sont tenus en laisse par les mécanismes des avances qui sont obligés de rembourser en allant faire des télés et des trucs comme ça. Et alors qu'aujourd'hui, le plus grand danger pour les artistes, c'est bien les contrats qui les lient à leurs producteurs,
ces derniers
vont parler au nom des artistes.
C'est
pour imposer des lois complètement imbéciles.
Juste pour rebondir sur ce que tu dis, je voudrais interpeller les auditeurs qui nous écoutent, qu'à savoir que un CD à fabriquer avec la pochette, le l'emballage plastique, le petit livre à l'intérieur, le cellophanage, enfin absolument tout complet, juste à mettre dans le rayon de la Fnac, ça coûte moins de 50 centimes et c'est vendu jusqu'à 19 euros, 15 euros, même 9 euros quand ils nous disent qu'ils nous font un super prix sur le truc. Donc ça rejoint complètement ce que tu dis, je suis complètement en accord avec ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se moquer du monde. C'est pas l'objet physique qui coûte cher, puisque je viens de le dire, ça coûte 50 centimes à produire, et encore, moi j'ai des prix par des fabricants français, je sais pas combien ça coûte à faire en Chine.
Voilà, c'est vrai que ton éclairage, Mathieu, du fait de ton métier d'éditeur, ouais, en fait, nous est très précieux là-dessus. En réalité, ils sont sur une espèce de grand écart sémantique, parce que d'un côté, ils nous disent « oui, c'est pour les artistes », mais de l'autre, ils sont complètement incapables de dire ce qu'est le prix d'une œuvre. Et lorsque ils nous vendent un CD, ils nous font croire que voilà, les artistes, en réalité, c'est jamais que le prix d'une galette de plastique est fixé arbitrairement et sur lequel un petit pourcentage revient aux artistes. Et essayer de nous faire croire que l'achat à l'unité, ou l'achat à l'écoute, en gros, que le paiement à l'acte est le seul mode valable de consommation de produits culturels et le seul mode valable de financement de la création, c'est un mensonge historique.
Ouais.
Et pour relier la problématique aujourd'hui que l'on rencontre, ce que eux présentent comme un danger qui serait le partage d'œuvres sur Internet entre particuliers. Entre parenthèses, on a un nombre croissant d'études aujourd'hui qui démontrent, une étude du ministère de l'économie et des finances canadien qui montre que les gens qui téléchargent le plus sont ceux qui achètent le plus. Mmh. une étude du gouvernement néerlandais par le très sérieux institut TNO qui dit que le partage d'œuvres sur Internet serait bénéfique à l'économie de la culture dans son ensemble, et une étude d'un institut de recherche universitaire français, Marsouin, qui dit que les gens qui téléchargent des films sont ceux qui sont le plus prêts à payer pour de la vidéo on demand.
Bah, c'est donc, fou ce que c'est fou. Excuse-moi de t'interrompre, mais je vais me faire l'avocat du diable. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces rapports qui nous disent que le téléchargement nuit gravement à la santé de la culture en France et qui alors, pour le démontrer, on a fait ce merveilleux site.
Dans une parenthèse.
Ouais, vas-y.
En train de parler de ce qui pour moi est là aussi un mensonge historique de dire que le partage nuit à la culture. En quelque sorte que partager, c'est voler.
Oui,
une espèce
oui.
de contresens digne de 1984, c'est ce que dit Eddie Mitchell, George Orwell, hein. Dans lequel on dit que la guerre, c'est la paix, que l'ignorance, c'est la force, etc. Et alors, la plupart des études dont tu parles, notamment le fameux rapport Adopi, donc j'invite tout le monde à taper sur Google « rapport Adopi », vous allez tomber sur un excellent article du non moins excellent readwriteweb.fr qui démonte en petites miettes
l'étude
qui a été commandée par le ministère de la Culture pour justifier sa loi Adopi, et dans lequel il prouve que plus de 75% des chiffres fournis viennent directement de l'industrie du disque, ou de leur lobby, ou des syndicats professionnels.
Exactement.
Donc d'un côté, on a plein d'études bidonnées qui disent que « oh là là, télécharger c'est mal, télécharger ça tue », et de l'autre côté, on a des études gouvernementales ou académiques qui démontrent le contraire.
Mais alors, c'est quoi cette loi Adopi, alors? Comment on en est arrivé là? Est-ce que tu peux nous,
j'aimerais juste, en quelque sorte, pour finir l'introduction, mettre une perspective historique. Parce que les questions que l'on entend aujourd'hui ont déjà été soulevées dans le passé. Et j'invite nos auditeurs à, alors je me souviens plus du nom précis de l'étude, je crois que c'était « Crise du disque, une perspective historique ».
C'était pour la DAVSI, ça, non ?
Benjamin Bourreau et Olivier Labarthe-Piolle, j'écorche peut-être leur nom, j'espère qu'ils me pardonneront,
oui.
Qui explique par exemple comment, lorsque la radio est apparue dans les années 20, l'industrie du disque est montée au créneau en disant « la musique à la radio va tuer le disque !» et s'est démerdée pour que pendant 9 ans, la FCC, donc l'autorité administrative américaine qui attribue les fréquences, n'a donné l'autorisation de diffuser de la musique, de la radio qu'à des stations qui s'engageaient à ne pas diffuser de musique.
Ah ouais, quand même.
Et après 9 ans, voilà, après 9 ans de ce régime, ils se sont aperçus que, et d'une, on n'arrivera jamais à empêcher la diffusion de musique à la radio, et de deux, que plus les gens entendaient de musique à la radio, bah plus en réalité ils avaient envie de musique et en bout du compte ils achetaient des disques. Et là. De là, on s'est débrouillé pour qu'il y ait un financement de la création indirect par la diffusion de musique à la radio qui est indexée sur les revenus publicitaires. Eh bien,
la fameuse licence globale.
Pour faire court et pour parler directement de l'après Adopi, c'est inévitablement ce qui va se passer une fois qu'on aura réalisé que tous les dispositifs répressifs que l'on peut mettre en œuvre autour du téléchargement d'œuvres sur Internet sont voués à l'échec.
Ça ne marche pas, je suis d'accord.
Ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher.
Donc la radio est le premier peer-to-peer de l'humanité.
Je vais répondre à ta question.
Vas-y.
Alors j'entends des drôles de bruits dans mon téléphone, je ne sais pas si...
Vas-y, n'aie pas peur, tout fonctionne bien, donc vas-y.
D'accord, bon, tant que Solvig continue de sautiller...
Oui, Solvig sautille toujours, t'inquiète pas.
Ok, parfait. Alors, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, l'Adopi, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une espèce d'usine à gaz. C'est, comme je l'ai dit, c'est pour permettre aux industries du divertissement de faire la police elles-mêmes sur Internet. Et donc, c'est une espèce de guichet unique de dénonciation pour des acteurs privés qui travaillent pour le compte des industries du divertissement et qui vont se livrer sur Internet à des missions de police. Donc, rembobinons, on a en amont des acteurs qui sont des agents assermentés par les sociétés de gestion collective et le ministère de la Culture, qui sont des espèces d'agents de police privés, qui vont travailler pour des syndicats professionnels, ou le SNEP, ou la SACEM, ou des investigateurs privés qui travaillent pour les industries, qui vont surveiller Internet ils vont relever des présomptions de contrefaçon, vu qu'ils n'ont de toute façon pas les moyens matériels de savoir que quelqu'un est bien en train de télécharger, ils n'ont jamais qu'une présomption. Mmh. Ils vont collecter ce que l'on appelle les adresses IP, ouais, qui sont en quelque sorte les plaques d'immatriculation des ordinateurs et des points d'accès sur Internet. Et donc, dans des petits fichiers textes, ils vont collecter des suites de chiffres qui identifient indirectement des gens sur Internet. Donc, en termes de preuves, c'est complètement nul. Les enquêteurs de police nous disent l'adresse IP, pour nous, c'est à peu près comme une empreinte de pas. Ça va donner une idée de la corpulence du bonhomme, de sa taille, du type de chaussures qu'il porte.
Ah, ils te disent, c'est pas une façon de parler, ils te disent vraiment ça, quoi. Ça n'a pas plus de valeur qu'une empreinte de pas.
Non, ça a une grande valeur, mais ça n'est pas suffisant, voilà, pour ça, condamner.
Voilà, que les choses
Or,
soient bien claires.
Dans le système Adobe, toute la condamnation est basée sur ces adresses IP, qui plus est, collectées par des acteurs privés, des polices privées. Donc là, déjà, en termes de respect de tous les principes démocratiques de protection des citoyens dans le cadre d'enquêtes judiciaires, on est d'ores et déjà complètement dans le rouge. On a complètement franchi la ligne blanche. Donc il suffit déjà de dire ça pour comprendre à quel point l'Adopi est dangereuse. Ensuite, il suffit de comprendre le fonctionnement d'Internet et de ces fameuses adresses IP pour savoir que les facteurs d'erreurs judiciaires sont incalculables. Votre adresse IP peut être collectée si quelqu'un a cassé votre borne Wi-Fi et l'utilise à votre insu.
Oui.
Paf, condamné, Adopi. Votre adresse IP peut être collectée si votre ordinateur est infecté par un virus ou un ver, et c'est transformé en zombie.
Ouais.
Donc je crois que c'est, je sais plus si c'est Tim Berners-Lee ou Vinton Cerf, mais un des deux parrains d'Internet, un des deux pères fondateurs d'Internet, qui estime à 20% le nombre d'ordinateurs connectés à Internet qui sont des zombies.
C'est Lee.
Donc ils sont pris, le contrôle est pris à distance par des tiers,
ouais,
via Internet, tant que l'utilisateur soit prévenu. Donc si votre ordinateur est un zombie, paf, Adobe, condamné. Si les policiers, si la police privée se trompe dans son relevé, paf, Adobe, vous êtes condamné. Donc on a d'ores et déjà la certitude que des innocents seront inévitablement condamnés.
Voilà. Je t'interromps juste, on va s'interrompre juste 5 petites minutes parce qu'il y a des appels. Alors, on va inaugurer avec toi le conférence call en accueillant donc un auditeur qui, je pense, a une question à te poser. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir. Ici c'est Robert F.
Tu vas bien?
Des Channel.
Tu vas bien? Alors, comme il y a pas mal de choses à dire et pas mal de gens qui souhaitent appeler, je t'invite à poser ta question à Jérémy, si c'est une question que tu veux, de manière concise, et si tu as une remarque à faire, pareil, de la faire de manière assez concise, parce que le temps nous est compté. Donc aujourd'hui, je vais jouer le méchant dictateur pour que les choses aillent bien. Vas-y, on t'écoute.
Bon, ben, moi, je ne suis pas français, je suis de Belgique, mais je pose quand même la question pour ceux qui écoutent la radio. Donc, si tu sécurises ton réseau correctement et que quelqu'un casse ton système pour entrer sur ton réseau, exemple, il spoof une adresse MAC, etc., il rentre dans le réseau, est-ce qu'il pourrait dire « Voilà, moi, j'ai sécurisé mon réseau, je ne l'ai pas laissé totalement ouvert, je l'ai sécurisé, donc il devrait être exempt ?»
Jérémy ?
Alors, c'est une excellente question d'un point de vue technique, et la réponse qui est appliquée dans le projet de loi Adopi démontre bien l'inculture technologique crasse du ministère de la Culture et des gens qui écrivent cette loi. Alors, je vais juste avant ça, avant de répondre à votre question, je vais juste préciser encore un tout petit peu le mode de fonctionnement de l'Adopi, parce qu'on en était qu'à la première étape, à savoir la collecte de preuves entre gros guillemets par des acteurs privés. Comme je vous l'ai dit, l'Adopi, c'est cette autorité administrative qui est un guichet unique de dénonciation. Donc, la police privée va transmettre à l'Adopi ses relevés de preuves, qui va d'abord envoyer un premier email à la personne, qui ne pourra pas clamer son innocence et contester cet email pour interrompre la procédure. Donc, on continue, niveau 2, et tout à fait dans le cas qui est décrit, si le réseau de la personne est cassé, ou si c'est un zombie, ou etc., etc., on va inévitablement vers le niveau 2. Donc, c'est une lettre recommandée qui, pareil, vous dit « Monsieur, vous êtes un pirate », et là, vous dites « Bah, c'est pas moi », mais vous n'avez aucun moyen d'interrompre la procédure. Et là, troisième étape, parce qu'évidemment, ça continue, surtout si vous vous êtes fait casser votre réseau, la troisième étape, c'est la déconnexion. et seulement au moment où est prononcée la déconnexion, on va vous proposer de reconnaître votre culpabilité en échange d'une peine plus légère. Ou alors, vous allez devoir faire un recours devant un tribunal avec un avocat, et ça va vous coûter les yeux de la tête, et ça va être super compliqué. Bon, ça c'était pour finir de planter le décor sur la Dopi. Maintenant, pour répondre à votre question, et si j'ai sécurisé mon réseau, mais que quelqu'un arrive à le casser quand même, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les crânes neufs du ministère de la Culture ont pensé à tout, sauf qu'évidemment ça ne marchera pas. La Dopi va tenir à jour une liste d'outils de sécurisation qui permettrait de protéger son accès Internet contre les utilisations frauduleuses de reproduction d'œuvres sans autorisation. Donc, un de ces jours, et peut-être avant la Saint-Glinglin, mais c'est pas sûr, la Dopi va dire « Ah, ben pour protéger votre réseau Wi-Fi, il faut faire comme ci, comme ci et comme ça. Et si vous mettez en œuvre ces moyens de sécurisation, alors vous serez tout simplement exonéré de responsabilité face à la Dopi. »
Et si nous ne sommes pas windowsiens, parce que je suppose qu'ils vont prendre uniquement des outils pour les utilisateurs de Microsoft Windows.
Ah, ben ça, écoutez, il va falloir leur demander, il va falloir voir ça avec eux. Le fait est qu'ils partent du principe qu'il peut exister de tels outils de sécurisation de son réseau contre les utilisations. Donc, sécurisation d'un réseau contre des usages. C'est même pas sécurisation du réseau contre les intrusions. On ne sait pas si ces outils vont protéger le réseau contre l'extérieur ou le réseau contre l'intérieur, essayer de protéger le réseau contre ses propres utilisateurs. Donc on n'a aucune idée de comment ça va fonctionner, mais dans tous les cas, ils partent du principe qu'il existe quelque chose comme la sécurité absolue qui va garantir que l'on ne pourra pas télécharger, que personne ne pourra télécharger à partir de son accès Internet. Et là, nos auditeurs qui s'y connaissent un petit peu en sécurité informatique doivent être morts de rire en train de se rouler par terre à l'idée de ces outils qui sont un pur fantasme.
Je te remercie, Robert, pour ton appel. On va continuer à avancer. Merci pour écouter si régulièrement les enfants du web et pour tes interventions. Moi, je voudrais rebondir. Merci, salut à toi. Jérémy, je voudrais qu'on continue sur cette question un peu technique parce que il y a de plus en plus la possibilité, par exemple, c'est des hébergeurs type OVH ou alors avec les Dedibox de Free, pour des sommes extrêmement faibles, de pouvoir avoir un serveur pour son usage et surtout avoir un serveur avec par exemple une Ubuntu Desktop, c'est-à-dire avoir son bureau et pouvoir accéder à comme si on était sur son Windows, j'allais dire, mais à distance, et puis c'est pas un Windows, c'est un Ubuntu. Comment ça fonctionne la Dopi dans ce cas-là?
Alors, excellente question. Ta question, en quelque sorte, est celle de l'inefficacité chronique de la loi d'un point de vue technique, parce qu'en réalité, il existe des centaines de moyens différents de contourner la Dopi. Alors, si vous ouvrez une des Dedibox ou un truc chez OVH ou quoi, je sais même pas en fait comment ça va se passer, mais le plus simple est tout simplement d'ouvrir un de ces serveurs ailleurs qu'en France, de faire transiter vos communications par ce serveur, et comme ça vous aurez une adresse IP qui n'est pas en France et sur laquelle les polices privées ni la Dopi ne pourront intervenir. Point. Donc là, ce que tu es en train de me décrire, tu me parles d'Ubuntu et de serveur Dedibox et de machin, c'est quelque chose qui est un petit peu réservé aux geeks. Il faut un peu mettre les mains dans le cambouis, se taper de la ligne de commande en se retroussant les manches.
Oh non, t'es un peu dur, non.
Ça ne concernera qu'une petite partie de la population. Je prends tes réserves en compte, mais objectivement, sur l'ensemble de la population.
Oui, je suis d'accord.
Tu demandes à ma mère de configurer un VPN sur une Dedibox.
On est d'accord.
Et j'ai beaucoup de respect pour ma mère que j'aime beaucoup, et si elle m'écoute, je pense qu'elle sera d'accord avec moi. Oui. Je pense qu'elle sera incapable de le faire.
Oui, je crois aussi. Donc, la mienne aussi. Hein.
Pourcentage de la population capable de faire ça. Seulement, voilà, on voit apparaître maintenant des services comme Relax, relakks.com, qui permettent pour 5 euros à monsieur et madame tout le monde de cliquer, de mettre son numéro de carte bleue et clac. Alors, ça marche que sous Windows, mais il y a gros à parier que très bientôt, on pourra faire la même chose sous Apple macOS et sous GNU Linux. Ouais. Mais bon, les utilisateurs de GNU Linux, à mon avis, sauront pour la plupart faire ça tout seul.
Ouais, comme des grands.
Et vous cliquez et ça vous ouvre un VPN avec un serveur distant qui est peut-être situé en Suède ou peut-être ailleurs, on n'en sait rien, mais qui vous dit juste, dormez sur vos deux oreilles, vous êtes tranquille, et en gros qui permet, en toute sécurité, de faire tout ce qu'on veut faire sur Internet en échappant à la Dopi. Mais ça, c'est qu'un des nombreux moyens qui permettent d'évader le dispositif.
C'est un contournement. Également... Alors, est-ce que c'est un contournement qui peut être considéré, est-ce que ce contournement peut être considéré comme un contournement légal? C'est en gros.
C'est illégal parce que cela revient à faire une connexion réseau au travers d'un autre serveur que le sien. C'est ce que vous faites, ouvrir un VPN, c'est ce que font les commerciaux à qui on donne un ordinateur portable et à qui on dit tiens, pendant que tu seras en train de vendre ta lessive à l'autre bout de la France, tu cliques ici et tu te connectes à l'entreprise pour accéder à tes mails.
Bah oui, mais enfin c'est tout
donc
à fait.
C'est des pratiques réseau qui sont celles de tous les administrateurs réseau, qui sont celles de tous les gens qui travaillent à distance, qui sont celles de l'éducation à distance, qui font partie du réseau Internet.
Intrinsèquement, c'est Internet.
Après, dans leur logique, ce sera d'interdire ce genre de pratique, de filtrer tout le réseau. C'est l'Internet à la chinoise, ça ne peut pas marcher.
Non.
Donc, ils sont déjà en retard d'une guerre, et la DOPI sera obsolète le jour où elle sera votée.
Ah, parce que on en arrive donc à, on avance, le temps avance, Jérémy. Hein, je te donne des tops régulièrement.
C'est
donc
bien.
Oui, donc le temps avance, c'est super passionnant. Mais donc là, on a fait un petit peu l'état des lieux de ce qui est, enfin de ce qui a été. Hein, on avance qu'est-ce que c'est la DOPI. Donc aujourd'hui, pour éclairer un peu nos auditeurs qui sont quand même dans le questionnement, l'interrogation et qui ont sur pour certains ont sans doute suivi l'appel qui a été lancé par la quadrature du net sur le blackout français. Donc tu nous diras peut-être un petit mot tout à l'heure sur les retombées. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et très clairement, est-ce que tu peux nous, voilà, parce que je pense que c'est important, je vais te donner la parole, que tu nous dises clairement où est-ce qu'on en est, parce que c'est venu à l'Assemblée nationale, c'est reparti au Sénat, puis c'est revenu, puis voilà.
Okay.
Est-ce que tu peux
je t'interromps parce que tu étais sur le point de dire une bêtise.
Mais non, t'inquiète pas.
Ça a pas commencé par l'Assemblée nationale, ça a commencé par le Sénat. Ce texte est soumis à la procédure d'urgence. Ce qui veut dire qu'au lieu de la procédure normale, dans laquelle il y a un examen à l'Assemblée ou au Sénat, puis un examen dans l'autre chambre, et une deuxième lecture, donc deux examens dans chacune des deux chambres, et à la suite des deux examens, si les deux chambres ne sont pas d'accord, on fait une troisième lecture, puis une quatrième lecture, etc. Mmh. Ça, c'est la procédure normale écrite dans la Constitution. Maintenant, plus d'une fois sur deux, parce que le gouvernement veut pas s'emmerder, et que les chambres parlementaires sont en quelque sorte devenues des chambres d'enregistrement qui ne servent qu'à valider la volonté du pouvoir exécutif, au mépris total de la séparation des pouvoirs, mais je m'égare. Il y a donc cette procédure d'urgence dans laquelle il n'y a qu'une lecture dans les deux chambres. Donc en l'occurrence, là, ça a commencé au Sénat. Au Sénat, tout le monde dormait, ça s'est fait en 10 heures sur deux séances. Le groupe socialiste a voté comme un seul homme et a délégué en fait sa voix, et donc a voté d'une seule voix derrière Catherine Tasca, ancienne de Canal+, Vivendi Universal et ancienne ministre de la Culture. Quelle coïncidence!
C'est curieux.
Et donc, le texte a été voté à l'unanimité au Sénat, l'unanimité des votants, le groupe communiste s'étant abstenu, mais je cite le sénateur Jack Ralit, il s'agissait d'une abstention combative.
Ah bien!
Donc, on lève le poing, mais pas trop haut, parce qu'on commence à avoir un peu d'arthrite. Et que c'est pas tout ça, mais il y a une réception dans le Sénat. Le texte a été voté avec des modifications tout à fait mineures au Sénat.
Oui.
Il a continué son chemin.
C'est quelle date en gros là? Le Sénat, c'est quelle date?
Le Sénat, c'était le 30 novembre. D'accord. Si je ne m'abuse. Et l'examen a commencé à l'Assemblée nationale le 11 mars.
Mmh, dernièrement.
C'est poursuivi le 11, le 12 et je crois le 13 mars, mais je n'ai pas mon calendrier devant les yeux. Et il a été suspendu au beau milieu de l'article 2. L'article 2 étant le plus croustillant car il détaille le fonctionnement de l'ADOPI et la façon dont les sanctions sont prononcées et attribuées.
Mmh.
De mémoire, on s'est arrêté quelque part vers l'article L331, 22 ou 23, donc vraiment au tout début de l'article 2. Et donc, il va... qu'est-ce que je dis comme bêtise? Oubliez cette dernière phrase. Bref, on s'est arrêté au tout début de l'article 2.
Je rappelle d'ailleurs que les débats, ils étaient visibles sur le web, et je crois qu'ils ont battu le record qui avait été établi lors de la DAVSI. De mémoire, il y a eu plus de personnes connectées pour regarder les débats pour ce dont tu es en train de parler que à l'époque de la DAVSI, qui était déjà à l'époque un record en soi qui n'avait jamais été rebattu depuis et qui l'a été pour cet événement-là, comme quoi la DOPI mobilise plus que 5 personnes dans un garage. Qu'est-ce que je raconte?
Je vais revenir sur la mobilisation, si tu me le permets.
Vas-y, Jérémy.
Et sur la séance elle-même dans un instant. Mais alors voilà, pour te répondre sur le statut de la loi, oui. L'examen va reprendre dans quelques jours, normalement le 30 mars. Il se disait la date du 31, mais maintenant c'est le 30 qui est le plus probable. Et j'ai aujourd'hui eu une info exclusive d'un député qui m'a dit que il était déjà inscrit sur l'ordre du jour parlementaire, que le 9 avril allait se discuter le texte voté en CMP. Donc dans la procédure d'urgence, il y a eu une lecture au Sénat, il va y avoir une lecture à l'Assemblée nationale, et ensuite est réunie une CMP, donc une commission mixte paritaire, dans laquelle 7 sénateurs et 7 députés vont en gros négocier le texte final pour qu'il soit finalement voté par l'Assemblée nationale. Donc là, tout est déjà prévu, tout est sur les rails, on va aller à toute vitesse, et on sait apparemment au gouvernement que le 9 avril, on aura le texte qui sera bouclé, ficelé. Mais, attention, tout ne va peut-être
pas... Ah, un rebondissement, un coup de théâtre.
Et ben, en fait, ça on verra. Mais en fait, la ministre Albanel le dit elle-même. Elle dit, ce qui est important avec ce texte, on sait bien qu'il sera pas tout à fait efficace, mais ce qui est important en réalité, c'est de changer les esprits.
D'accord.
C'est de faire comprendre aux gens, et à plus forte raison aux jeunes qui sont nés dans l'environnement numérique, qui comprennent l'échange, le partage et la copie pour ce qu'il est réellement, essayer de persuader tout ce petit monde que partager, c'est voler. Et que partager, c'est mal. Et elle dit, ce qui est important avec ce texte, c'est de changer les esprits. Donc, et nous, c'est ce qu'on est en train de faire avec la quadrature du net, on se dit que bah, s'ils n'y arrivent pas à changer les esprits, bah, ils auront perdu. Et c'est une députée UMP elle-même qui le disait lors d'une des dernières réunions de groupe, en réalité, ça va se résumer à une bataille de communication.
D'accord.
Et nous, c'est ce que l'on fait modestement à notre échelle avec la quadrature du net. Tu l'as rappelé tout à l'heure, c'était notre initiative du blackout.
Ouais.
Et donc, je vais rappeler un petit peu ce que c'était et surtout comment chacun peut participer dans cette bataille de communication contre la ministre Albanel, contre les mensonges des industries du divertissement, pour qu'en fin de compte, quel que soit le résultat et quelle que soit la loi votée, on puisse avoir gagné. Donc, ce blackout, c'était avant tout créer un symbole fort que tout le monde peut comprendre et surtout les journalistes, disant chacun va passer un bout de son site web, un bout de son blog, son profil, son avatar sur les réseaux sociaux en noir, à la couleur du blackout. Le blackout, c'est la couleur de la déconnexion pure et simple d'Internet, c'est la couleur de l'obscurantisme dans lequel ils veulent plonger Internet, et c'est aussi la couleur de la bêtise noire des gens qui écrivent cette loi.
C'est clair.
Donc, petit 1, un symbole, le blackout. Petit 2, c'est évidemment pour stimuler le débat démocratique, stimuler les échanges citoyens sur Internet. Et alors là, ça n'a pas manqué. Premiers trolls qui ont dit « Ouais, le blackout, ça sert à rien, ça marchera jamais », mais qui se sont quand même retrouvés avec 400 messages sur leur blog pour leur dire « Ouais, mais si, mais non, mais oui, mais non, mais si, mais non, mais Adobe, c'est nul parce que ça ceci, ça cela dans tous les sens ». Entre ça et tous les forums qui se sont fait prendre d'assaut par la question, j'avais sous les yeux, alors je sais pas si j'arriverai à la... Ah oui, voilà. J'ai une liste des domaines qui ont le plus participé au blackout, dans lesquels on trouve domaine.com, des teams de gens réseau, des utilisateurs de laptop, un site de footeux et de filles en maillot de bain.
C'est mes préférés.
Un site de gadgets numériques, des trucs de jeux, de télé, de... ça va bien au-delà de la communauté des geeks. Il y a un truc qui s'appelle foodfreak.com. Il y a un truc sur les alpagas. Il y a un truc sur l'adoption.
Oui,
il y a un truc sur les mondes persistants, sur les sports, etc., etc. Donc, bien au-delà du cercle des geeks et des libristes, on a commencé à parler de la dopie.
C'est presque rassurant, ça prouve que la majorité des Français sont pas si cons que ça, et que la quadrature du net est pas se résume pas à un certain nombre de personnages dans leur garage. Et encore, quand elle dit ça, Albanel, elle ferait bien de faire très attention. C'est comme ça qu'a commencé Apple, avec quelques gars dans un garage. Donc elle fera mieux.
Alors, tu m'as coupé dans mon élan.
Ouais, s'interrompt. Oui.
Important au-delà de ça. Effectivement, le but est de montrer qu'Internet est sinon un contre-pouvoir, qu'Internet peut au moins devenir une source d'information objective et une source de contre-information, de contre-propagande, où l'intelligence collective peut concourir à rétablir la vérité lorsque l'on ment au peuple tout entier. Mais, je vous l'ai dit, le blackout, c'était avant tout un symbole fort qui a plu aux journalistes qui ont commencé à nous appeler par dizaines, et ce qui a suscité des interviews et dans France Soir et sur France Inter, dans le 20h de TF1, etc., ce qui a bien dû coller les chocottes.
Et même sur le 13h de France 2, puisque Philippe s'est retrouvé Vas-y.
Oui.
Vas-y, je t'interromps.
Au-delà du débat citoyen que l'on espérait stimuler par cette action, c'était une espèce de pied dans la porte pour dire aux citoyens et pour dire à nos soutiens, si vous voulez qu'il se passe quelque chose, contactez votre député et dites-lui que vous avez procédé au blackout. Dites-lui que tout votre site ou tous les sites sur lesquels vous allez sont en blackout. Expliquez-lui pourquoi. Expliquez combien cette loi est inefficace, inapplicable, dangereuse. Pourquoi elle est une mauvaise réponse à un faux problème. Transmettez-lui le dossier de 42 pages de la quadrature du net, ou la note de 2 pages. Transmettez-lui la contre-argumentaire que l'on a rédigée contre l'argumentaire du groupe UMP qu'il a transmise à tous ses députés. Et appelez au téléphone en tant que simple citoyen et dites, voilà, j'habite dans votre circonscription et il y a quelque chose là qui me turlupine. J'aimerais en parler avec vous. Demandez un entretien face à face avec votre député. C'est la façon la plus efficace que vous avez d'influer sur le cours de la loi. Et je vais vous dire quoi, c'est facile. C'est intimidant au début parce qu'on se dit, oh là là, mon Dieu, un député. Oh,
non, mais en fait, on arrive à les attraper.
Mais c'est avant tout un être humain, comme vous et moi.
Exactement.
Et surtout, si vous n'arrivez pas à joindre lui personnellement, vous allez tomber sur un assistant ou une assistante, parfois charmante.
Souvent.
Ce sont des gens qui ont en moyenne 25 ou 26 ans, donc qui sont de notre génération, qui utilisent Internet tous les jours.
Et qui téléchargent.
Les technologies numériques.
Et qui
parlons à plus forte raison comme des êtres humains. Donc, c'est un message que j'aimerais vraiment faire passer à nos auditeurs. Si vous voulez faire passer le message que l'on veut faire passer à l'Assemblée nationale, et quel que soit le résultat du vote de la loi, il est très important que pendant les débats, nos idées soient clairement énoncées. Et à de nombreuses reprises, à l'Assemblée nationale, le nom de la quadrature du net a été prononcé. Alors, je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais c'est vrai que ça m'a fait très plaisir quand Christian Paul a parlé, je crois, du formidable travail de sensibilisation citoyenne de la quadrature du net. Mais au-delà de ça, c'est littéralement nos arguments qui étaient dans la bouche de députés de tous les camps.
Oui.
Les députés UMP,
oui,
qui avaient le courage de se rebeller contre leur propre camp. Les députés Lionel Tardy, Alain Suguenot et Marc Le Fur. J'espère que j'écorche pas leur prénom. C'est des députés PS comme Christian Paul, comme Patrick Bloch, Didier Mathus et Sandrine Mastier. C'est la formidable députée verte Martine Billard que nous aimons tellement. C'est le trublion Brard avec ses blagues et sa grandiloquence. C'est même Jean-Dionis du Séjour qui pourtant est très prompt à défendre les industriels. C'est élevé contre la loi grâce à des arguments de la quadrature du net.
Alors,
pour le futur, c'est très important.
Voilà, donc parle-nous du futur, parce qu'aujourd'hui, donc, on en est là, tu as décrit avec toute la verve qui te caractérise et ta capacité à nous faire comprendre ça de manière tellement simple. Enfin, quand on t'écoute, ça paraît tellement évident qu'on se demande comment on en est là.
Arrête le cirage.
Ah bon, d'accord. Merde, ça s'est vu. Non, je déconne, parce que c'est tout à fait vrai. Si on en est là, c'est aussi parce que à la quadrature, alors je vais le dire comme ça, vous avez donc cette capacité à rendre la chose didactique et accessible. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'effectivement, bien souvent, les députés sont pas forcément, voire même pas du tout, au courant du fonctionnement d'un graveur sur son PC ou voire même d'un disque dur. Donc c'est pas évident, et si on fait pas ce travail de fourmi d'explication et de réexplication et de re-explication, etc., 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 on n'aboutit pas. C'est un travail qui est longue haleine, qui est difficile, qui est voire même abyssal et terrifiant. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse, et la Quadrature l'a fait. Mais ça a fonctionné parce que ça.
Attends, je finis.
Parce que c'est une figure de style. Et ça a jusque-là fonctionné parce que ça a été, en plus, comme tu le disais, relayé sur un nombre impressionnant de sites web qui ont relayé le blackout. Mais moi, ce que je voudrais, ce qui m'intéresse, et puis parce que le temps passe, et je voudrais qu'on parle de demain. Donc, so what? Aujourd'hui, tu nous as donné un certain nombre d'informations, mais quand est-ce que ça revient? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'il faut qu'on fasse.
Allez. Alors, il y a quand même plusieurs questions qui sont contenues dans ce que tu dis, et plusieurs points qui me forcent à réagir.
Bah oui.
Déjà, oui, c'est un combat de simplification, d'explication et de pédagogie.
Exactement.
Pour que les gens comprennent le processus législatif, comprennent comment on revient petit à petit, morceau par morceau, en arrière sur leur liberté individuelle. Et comme l'a dit la ministre Albanel, il s'agit de avant tout de faire changer les esprits. Et s'il s'agit de faire changer les esprits pour y faire entrer des mensonges, alors c'est une insulte à faire à l'intelligence du peuple tout entier. Il est de notre devoir de citoyen, eh bien de parler à cette intelligence, et à plus forte raison à cette intelligence collective qui est celle du réseau, pour rétablir tout simplement la vérité. Et donc c'est à ça que l'on travaille tous les jours. Et l'après Adopi, ce sera ni plus ni moins que ça. Une fois que la loi sera votée, de démontrer par A plus B, en long, en large et en travers...
Pour toi, ça ne fait pas un pli, elle sera votée.
Bien sûr qu'elle sera votée. Peut-être qu'il y aura un ou deux grains de sable dans les rouages qui seront votés sous forme d'amendements, mais l'UMP est en train de serrer les rangs. Frédéric Lefebvre fait des pieds et des mains. Ouais. Et bon, un lobbyiste qui siège à l'Assemblée nationale, ça aide forcément à faire passer ces messages. Donc, ils sont beaucoup, j'imagine, à avoir la trouille dans le groupe UMP et à très bien comprendre les enjeux, mais à ne pas oser y aller. C'est pour ça aussi qu'il est important de les appeler sans relâche, de les appeler, de les rappeler, de demander un entretien, de rappeler pour redemander un entretien, après l'entretien, de rappeler, pour leur faire comprendre qu'il y a une véritable pression citoyenne et une véritable pression de leurs électeurs. Mais je m'éloigne sur ta question de l'après. L'après, ça va être démontrer par A plus B que la loi ne marche pas, qu'elle est nuisible, qu'elle est nocive, expliquer...
Et qu'elle coûte de l'argent. Rappelle-nous
qu'elle coûte de l'argent aux entreprises qui devront mettre ces logiciels fantoches, à tous ces gens qui vont acheter des services comme Relax ou des serveurs à l'étranger, ce qui enverra des euros à l'extérieur de la France. Bravo les gars. Ce qui fera dépenser de l'argent pour des serveurs, des VPN et des outils de sécurisation au lieu de financer la création.
Exactement.
Et donc, après des semaines, des mois, des années d'Adopi, on aura démontré en long, en large et en travers que la loi n'est ni faite, ni à faire, qu'elle est cause d'injustice, qu'elle condamne les innocents, qu'elle ne marche pas, qu'elle ne peut pas marcher et qu'elle ne répondra jamais à ses objectifs qui sont de toute façon mauvais. Et il sera très largement temps de reprendre les débats qui auront été prononcés à l'Assemblée nationale, que l'on va stimuler par nos appels et par notre mobilisation pour dire « Regardez, on vous avait prévenu », et de contacter ces députés qui, dès aujourd'hui, sont d'ores et déjà au courant que la loi est vouée à l'échec, pour avec eux imaginer l'après, pour avec eux faire la nouvelle loi qui viendra abroger l'Adopi, qui viendra instaurer de nouveaux modes de financement de la création, tels que ceux décrits dans le livre de Philippe Aigrin, édité aux éditions In Libro Veritas, téléchargeable gratuitement et achetable en ligne, qui s'appelle Internet et Création, et qui envisage le nouveau mode de financement de la création.
Exactement.
Dans lesquels on prendrait quelques euros par-ci, quelques euros par-là, sur l'accès Internet, mais ça pourrait être également sur la pub des services en ligne, ça pourrait être sur le matériel informatique, ça pourrait être sur les abonnements de téléphonie mobile, ou que sais-je encore, pour collectivement et indirectement financer la création, exactement comme on le fait avec la musique à la radio.
Exactement, la fameuse licence globale.
Et donc, imaginez l'après Adopi, ça va se faire à tête reposée, tout en exposant le ventre ouvert, les tripes à l'air, de monstres administratifs abjects que l'on va finir par tuer par la force de notre intelligence collective.
Bravo. Bravo Jérémy, je crois que c'est exactement. Enfin, c'est j'aurais. Enfin, je sais pas comment on peut dire mieux parce que c'est exactement ça. On sent bien que t'es dedans depuis un petit moment et que c'en est même. Ça prend les tripes quoi de t'écouter parce que bah on sent toute l'énergie, toute l'ambition, toute l'envie qu'il y a derrière ça. Et puis surtout le danger que procure cette loi. Tu n'en as pas parlé, tu l'as vaguement évoqué, mais cette loi-là, on est à la limite de l'inconstitutionnalité, à la limite de la liberté des droits, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque on va nous couper purement et simplement l'internet, alors que on a simplement relevé une trace de pas dans le sol, ce qui ne suffit pas à faire de vous quelqu'un de coupable. Tu l'as dit, il n'y aura pas de juge, il n'y aura pas de tribunaux, il n'y aura pas de possibilité d'appel. On ne sait pas du tout où on va, donc il est important de continuer à se mobiliser en allant régulièrement sur le site de la Quadrature pour se tenir informé et puis pour regarder et lire en long et en travers les dossiers qui sont mis. Et puis moi je voudrais insister vraiment, la Quadrature du Net, c'est pas 4 gars dans un ou 5 gars, je sais plus ce qu'elle a dit, dans un garage, mais c'est bien une communauté tout entière d'internautes qui se mobilisent et qui se lèvent, lassés de faire du lèche-vitrine culturel dont on parlait tout à l'heure, et que ben la révolution est en marche, et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on soit d'accord ou pas, ben c'est en train de se produire. Et je crois que tous les monstres juridiques qui pourront être fabriqués pour faire plaisir à certains amis qui étaient venus dîner au Fouquet ce soir-là ne serviront pas à grand-chose. Et comme la DAVSI en son temps n'a eu finalement aucun impact, bah, comme tu le dis, on réfléchira tous ensemble à l'après-Adopi, à la rémunération juste des artistes et des auteurs, des interprètes, des danseurs, des acteurs, des réalisateurs, des preneurs de son, et que sais-je encore, qui militent pour un art librement téléchargeable et librement échangeable dans le respect de la rémunération des artistes. Et puis pour le savoir aussi, parce qu'il y a aussi tous les scientifiques derrière ça, il n'y a pas que la culture artistique, il y a aussi la culture du savoir qui est en danger à cause de la Adopi. Voilà. Merci pour ton intervention, Jérémy. Encore bravo.
Merci à toi. La conclusion que tu viens de donner est toute trouvée. Me va parfaitement. Juste pour ajouter un dernier mot. Déjà, je vous remercie énormément de m'avoir fait intervenir, de m'avoir reçu dans votre émission.
Il n'y a pas de problème.
Juste pour terminer et pour boucler la boucle.
Vas-y.
On l'a dit au début. Internet est la plus formidable avancée de l'histoire de l'humanité depuis l'imprimerie de Gutenberg. C'est le plus formidable outil qui existe pour la liberté d'expression et pour la liberté d'information. Il est de notre devoir à tous de le préserver.
Eh bien, on va y travailler. Tu peux nous faire confiance, et tous ensemble, c'est vers ça qu'on va aller. Merci à toi, Jérémy.
Merci à tous. Merci à vous.
Merci beaucoup, bon, à toi, et puis à très bientôt ailleurs. Salut Jérémy. Se terminent les enfants du web.
Pas complètement.
Pas complètement. Oh, il nous reste encore quelques minutes. On va redescendre tout doucement. Essayer un petit peu de réfléchir à ce que vient de dire Jérémy, qui était particulièrement important, particulièrement essentiel. Voilà. N'hésitez pas à faire part. Parler autour de vous de l'émission de ce soir. Solvig, je compte sur toi pour mettre, comme d'habitude, le podcast rapidement sur le...
Ce soir.
Voilà, sur le site web. Vous pouvez évidemment échanger, partager, envoyer le podcast de l'émission à tous vos amis, à tous ceux qui n'ont pas forcément compris ce que c'était que ces enjeux de la loi Adopi. Les explications de Jérémy seront sans doute éclairantes à plus d'un titre pour beaucoup de gens. Voilà, donc c'était... une super intervention que moi évidemment je cautionne complètement à titre personnel.
Ah ouais, il y a des fans sur le chat.
Hein. Ouais, c'est normal. Jérémy travaille depuis de tellement longtemps à ce sujet-là qu'il était important qu'il intervienne sur les enfants du web pour venir s'exprimer et voilà. On ferait un petit tour d'actu quand même.
Un petit tour d'actu, sur le thème de la dopi, tiens.
Allez, vas-y. Allez, on va faire un petit news du web un petit peu spécial. Allez, vas-y, c'est parti.
S'il y a des gens qui ont déjà suivi l'actualité, ils sont au courant que les jeunes de l'UMP, le collectif des jeunes du parti politique UMP, ont été censurés par la hiérarchie un peu plus haute. Ils avaient fait un article anti-Adopi en donnant leur avis qui rejoignait plutôt pas mal les arguments qui sont émis par la Quadrature. Et en fait, ils se sont fait censurer. Et ils ont retiré l'article. Ils en ont remis un autre pro-Adopi sur le sujet. C'est assez drôle. C'est là que tu te dis liberté d'expression, où es-tu ?
Ouais,
surtout dans le parti politique.
Ouais, sur Numérama, il y a une news qui est assez intéressante sur les blacklists en Australie, où le gouvernement australien a dit on va mettre en place un certain nombre de blacklists, et notamment une blacklist qui a pour but de censurer les sites pédophiles et autres immondices de genre. Et malheureusement, comme d'habitude, à l'intérieur de cette blacklist, gérée de manière complètement opaque et complètement assez curieuse, on y trouve des articles de Wikipédia. On y retrouve des sites de liens torrent pour BitTorrent. On y trouve également le site d'un dentiste. Donc, on peut vraiment se demander ce qu'il vient faire là-dedans. Ceci juste pour éclairer sur le fait qu'à partir du moment où on ne met pas de manière publique et connue les différentes lignes à l'intérieur d'une blacklist de ce genre, il y a forcément des dérives, et on le voit quoi, ça a à peine commencé que ça loupe pas. Ça se passe en Australie et c'est rapporté sur le site de Numérama.
Il y a une réaction de Xavier Niel, qui est le président du groupe Iliad, donc avec Free, qui a annoncé que qui Free appliquera la riposte graduée, mais préfère une amende.
Raconte-nous ça.
En fait, il veut pas subir les coûts qu'il estime à une centaine d'euros par abonné, et préconise plutôt une amende, à défaut d'en rester à une simple opération d'éducation, comme l'annonce le ministère de la Culture. Donc, il préférait, tout est dans le titre, il préférait une amende plutôt que suspendre la connexion internet de ses abonnés, qui engendre des coûts pas forcément qui sont à la charge des fournisseurs d'accès internet, et c'est son avis.
Une news tout à fait intéressante des éditeurs de jeux vidéo. On pourrait croire qu'il serait plutôt pour la Adopi, hein, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure avec Jérémy, mais il y a aussi tout un pan de la culture qui est autour du jeu vidéo. On pourrait dire ils sont pour la Adopi parce que ça leur permettrait a priori d'empêcher le téléchargement des jeux sur les réseaux. Et en fait, pas du tout. Ils sont contre la loi Adopi. Et pour te dire que le cynisme des gens ou leur côté pragmatique ou finalement une simple chose très concrète. Tu sais pourquoi ils sont contre cette loi Adopi? Parce que leurs clients, ce sont des jeunes qui téléchargent et disent si jamais ils sont attrapés en train de télécharger, ils auront plus d'internet, et s'ils ont plus d'internet, ils pourront plus jouer en ligne, notamment sur les services du type World of Warcraft ou tu sais les serveurs
Winter
de
Strike,
ouais, voilà, ou même je me souviens plus comment. Les serveurs de jeux où tu peux télécharger et jouer sur les jeux via un abonnement de 30 euros par mois, tu as toutes les dernières sorties sur PC. Tu vois de quoi je parle. Et en fait, ils se sont dit, mais attendez, si la Adopi elle passe, ça veut dire qu'il y a un risque non nul que mes clients se fassent interdire de web. Et moi, s'ils ont plus de web, ils peuvent plus jouer, s'ils jouent plus. Ils continuent ils pourront plus payer et ils pourront plus aller sur nos sites. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, le côté on peut être contre la Adopi pour des raisons extrêmement cyniques et tout à fait financières.
Exactement, faut bien vivre dans la vie. Pour rebondir sur les jeux vidéo,
ce que tu dis, faut bien vivre, ouais. Merci Grégory House pour toutes ces infos, merci pour cette remarque.
Il y a une équipe de développeurs qui ont développé un mode, donc un sous-jeu en fait qui est développé avec les logiciels que les éditeurs mettent à disposition proposition. Alors, c'est Bisounours Party. Bah ouais, parce que vu que les jeux vidéo, ça transforme les jeunes en tueurs obèses, sanguinaires, que ça fait des pédophiles et tout ça.
Ah oui, c'est vrai.
Et bah... Il y a une équipe de développeurs qui ont développé ça. Alors c'est basé sur le moteur graphique de Half-Life 2, donc du pompon cucu quoi, si on préfère. Et on incarne des bisounours qui vont tuer, qui vont se défendre contre une équipe qui s'appelle l'Enfer LOL, qui ont dispatché un peu partout sur la carte de la drogue, de l'alcool et compagnie. Or, dans le fabuleux trailer, on voit un bisounours en train de fumer sur le bang. C'est assez drôle. Et c'est l'enfer LOL contre les bisounours. Et puis, faut gagner. C'est assez drôle. Et c'est cynique.
dans la série des trucs qui nous font assez rigoler, c'est toi qui renouvelle la news tout à l'heure. Je voulais te la laisser, mais en fait non, je vais te la piquer. Android et le système d'exploitation de Google pour les téléphones, pour la téléphonie mobile, pour les téléphones portables. Et il faut savoir que les premières versions donc sont pas compatibles avec les services de Google en ligne. Voilà. Donc
ouais, je suis Orange qui vient de sortir les premiers téléphones avec Android. Ils sont beaux, c'est fluide, ça marche bien, tout ça, mais le téléphone Google qui marche pas avec Google, c'est dommage.
C'est con, hein.
C'est un peu con, ouais.
C'est ballot.
Bah, de toute façon, ça vient de sortir, va falloir laisser un peu de maturité, histoire que ça grossisse, que ça grandisse bien. Puis, y a aucune raison que ça marche pas dans les mois à venir, ouais. Et que ça détourne pas Apple.
Ah oui,
avec son monopole de l'Apple Store et compagnie.
Ouais, dans la série des trucs rigolards, on s'apercevra que comme quoi la concurrence a du bon, puisque Firefox, toutes les versions de Firefox maintenant ont plus de parts de marché que Internet Explorer version 6. Hein, donc il y a plus de personnes sous Firefox, toutes versions confondues, que sous Internet Explorer 6, donc qui positionne Firefox et de vraiment comme étant le deuxième navigateur du monde, à tel point que ça a quand même commencé à filer les miquettes à Microsoft, qui donc nous ont sorti vendredi, si je dis pas de bêtises, la version 8 téléchargeable de Internet Explorer que on va pouvoir utiliser, et apparemment ça marche super bien, c'est bien intégré, il y a plein de nouveautés, ça va être trop super, voilà. Et d'un autre côté, ça va être bien parce que ça va peut-être forcer la fondation Mozilla à nous faire un Firefox moins gourmand en ressources, parce que c'est toujours un camion à transporter ce truc là dès qu'on a ouvert 2-3 onglets, ça devient insupportable. Moi j'utilise Firefox, mais aussi Google Chrome, qui est le navigateur de Google, qui fonctionne super bien, qui est léger, mais qui a pas encore toutes les fonctionnalités absolument géniales qu'on a avec Firefox et qui nous sont quand même bien utiles. C'est la fin des enfants du web, en signe cabalistique, Solvik. C'était vraiment une très bonne émission. J'espère que vous avez eu plaisir à écouter Jérémy comme moi. Solvik et moi avons eu le plaisir de le faire. J'ai pas grand chose à dire. C'était vraiment très bien. Vivement la prochaine émission.
Yep.
Hein, dimanche prochain avec encore son lot de surprises. Hein. Vous viendrez sur le site d'Oxy Radio pour avoir toutes les informations. N'hésitez pas à réagir sur le blog d'Oxy Radio,
sur le chat, sur le forum,
partout. Téléchargez le podcast, faites circuler le podcast, diffusez-le, envoyez-le à tous vos potes,
gravez-le, donnez-le à votre maman, vos amis.
Voilà,
tout ça.
Et puis vous pouvez même le graver et l'envoyer à vos députés. N'oubliez pas ce qu'a dit Jérémy, on peut y arriver, on peut communiquer avec son député, il y a absolument aucun souci, il faut l'appeler, on peut les tanner. Allez, c'est la fin des enfants du web. Je suis super content d'avoir passé cette heure avec vous et avec Jérémy. Portez-vous bien, passez une bonne semaine, puis. Hein, restez libre et puis ne renoncez jamais.
À bientôt, à la semaine prochaine.
Salut, ciao.
Les enfants du web, l'émission qui rocks.